Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous. Nous n'avons jamais été autant à la maison. Confinement, télétravail, école à la maison. Ça se voit dans nos poubelles. Elles débordent. Car plus de consommation, ça signifie aussi plus de déchets. Rester à la maison n'a pas freiné notre frénésie d'achat, bien au contraire. Mais cela témoigne aussi de notre adaptation à la pandémie. Les habitudes des consommateurs ont changé depuis un an. Plus de livraisons de toutes sortes, c'est l'effet Amazon. Nous ne pouvons pas y aller, alors les restaurants et les magasins viennent à nos portes. Les plastiques et les autres emballages de nos livraisons remplissent avec abondance nos poubelles et nos bacs de recyclage. Nous allons voir à Je vote pour la science si cet effet de la pandémie persistera dans le temps. Pour le savoir, restez là. Les matières plastiques montrent leur utilité en période de crise sanitaire et de confinement. Le plastique particulièrement lorsqu'il est à usage unique a cependant des limites du côté du recyclage. La pandémie nous a changé. Il semble que nous soyons moins écolos qu'avant. On va en parler aujourd'hui avec Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et avec Sylvain Charlebois, qui est professeur en distribution et politique agroalimentaire et directeur du laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Bonjour.
Bonjour.
L'usage du plastique a connu une forte augmentation avec la pandémie, tout comme l'ensemble des déchets. Qu'en est-il exactement? Peut-être, Monsieur Ménard?
Oui, en fait, on n'a pas encore de données qui sont sorties là, de cette période-là, mais on a des observations. Ce qu'on a observé par les municipalités ou les centres de tri, c'est qu'il y a eu une augmentation d'environ 20% des matières résiduelles des ménages. Je parle des ménages parce que les entreprises, les commerces ont généralement été fermés là, depuis un an. Donc, la production de matières résiduelles s'est en fait transposée vers les résidences. Donc, les bacs de récupération ont vu leur volume augmenter. Même chose pour les poubelles. Et vous l'avez dit, effectivement, le plastique à usage unique, ça a été une conséquence ou un dommage collatéral, si on veut, de la pandémie. On en a retrouvé davantage dans les bacs de récupération. En fait, le bac de récupération a vu plus de matières contaminantes recueillies.
Oui, ce qui veut dire qu'on pouvait pas, en fait, trier le bac correctement, c'est ça?
Ben, en fait, c'est qu'on a mis les poubelles se remplissaient rapidement, donc on a pris le bac en fait un petit peu pour une poubelle. Et il y a eu beaucoup de nouveaux produits qui sont arrivés, notamment les commandes livrées à la maison. Ça c'est un peu curieux, mais ça a joué pour l'augmentation de l'emballage. De même, les choses qu'on a achetées par internet. Donc ça fait en sorte que les emballages ont augmenté. Et naturellement, ben, tout ce qui est ce qu'on appelle les EPI, là, les équipements de protection équipements de protection individuelle, les fameux masques jetables. Certains les ont mis, surtout au début de la pandémie, dans les bacs de récupération ou même dans les toilettes, là, ce qu'il faut absolument ne pas faire. Et il y a eu un certain relâchement, hein, ça veut dire aussi, au début de la pandémie, souvenez-vous, les détaillants d'alimentation refusaient d'accepter les contenants consignés. On a vu les sacs de plastique à usage unique revenir, alors que presque tout le monde, à l'époque, utilisait les sacs réutilisables. Donc, l'environnement a peut-être été le secteur de la société qui a subi les plus durs coups toute proportion gardée là de la pandémie.
Oui, on a pu voir quand même quelques ciels bleus dans certaines villes. Ça, c'était une autre forme finalement de déchets. Là. Mais c'est vrai que nos poubelles débordent et notre sac de recyclage aussi déborde là. De votre côté, professeur Charlebois, qu'avez-vous remarqué?
Ben, c'est sûr que moi, je m'en tiens à l'alimentation. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis, ce qui est arrivé au printemps dernier avec l'achat de panique, là, c'est que les gens ont acheté trop de nourriture. carrément. Et ce qui a amené à le niveau de gaspillage était supérieur à la moyenne. Nous, on croit que du mois de mars au mois de mai au Canada, de façon générale, le ménage a gaspillé 13,5% de plus de nourriture qu'habituellement. Mais les choses se sont calmées pas mal parce que en se domestiquant, on s'est discipliné. On va passer moins de temps par visite au magasin. On va acheter ce qu'on a de besoin. On s'en tient une liste et on va être au courant de ce qui se passe dans notre frigidaire et dans notre dépense aussi. Mm-hmm. Alors, on y va pas à l'aveuglette, ce qui fait en sorte que les gens gaspillent moins. De façon générale, donc depuis cet automne, nous, on croit et on n'a pas mesuré rien encore, mais en discutant avec différentes villes, on s'est rendu compte que le compostage, le niveau de compostage a diminué, ce qui est une mesure qu'on surveille. Là. Donc, les ménages génèrent moins de compost, ce qui indique que, ben évidemment, il y a peut-être moins de gaspillage. C'est quand même intéressant comme phénomène, mais on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer une fois qu'il y a un déconfinement généralisé, une fois que les gens commencent à redevenir des nomades, là, ça pourrait changer.
Oui, à pouvoir reconsommer en masse. Mais les habitudes c'est de ça. Consommation ont changé. Donc, il y a eu une augmentation des livraisons. On a appelé ça l'effet Amazon. Je consomme tout autant, mais plus en ligne. Monsieur Ménard.
Oui, effectivement, on a constaté la même chose et c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est-à-dire, on aurait pu justement se discipliner, comme M. Charlebois l'a dit, dire... ralentir, si on veut, notre frénésie au niveau de la consommation, mais on a découvert, en fait, collectivement, qu'il existait des compagnies comme Amazon qui pouvaient combler, non pas nos besoins, mais nos désirs de surconsommer. Donc, c'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'effectivement, il y a toute la question du transport relié à ça. La question aussi de la surconsommation et souvent, c'est des objets qui ne sont pas nécessairement utiles. Tout à l'heure, j'ai parlé des problématiques reliées à la pandémie. Souvenez-vous qu'en en début de la pandémie, il y a eu un confinement généralisé, il y avait la distanciation sociale qui est arrivée. Donc, certains centres de tri avaient moins de personnel pour trier les matières. On mettait plus de matières, paradoxalement, dans les bacs de récupération. Donc, il y a eu comme un embouteillage, un engorgement. Et on a dû envoyer des matières recyclables se faire éliminer. C'était aussi un des aspects là, négatifs de la pandémie. Et notamment induit par le fait qu'on n'est plus au bureau. Donc, on génère des matières qu'autrement, on aurait mis dans le bac ou dans la poubelle au bureau. On les met dans les bacs ou la poubelle à la maison. Et le fait, comme vous venez de le dire, c'est qu'on achète beaucoup sur Internet, donc sur emballage qui arrive à la maison. Il faut en disposer. Donc, les poubelles et les bacs se remplissent rapidement.
Oui, normalement, les Canadiens utilisent près de 4,6 millions de tonnes métriques de plastique chaque année, soit environ 125 kilos par citoyen. Mais ça semble difficile de s'en passer encore plus en ce moment, non?
Absolument, mais le plastique a ça de merveilleux, si je puis dire, c'est qu'il est somme toute pas très cher, il est durable, paradoxalement, et souvent c'est à usage unique. En fait, 50% du plastique qu'on consomme est à usage unique. Même si tous les plastiques sont techniquement recyclables, ils ne sont pas tous recyclés. Chaque centre de tri, si on veut, a ses particularités, c'est-à-dire certains acceptent tel type de plastique, d'autres non. Donc ça devient un peu mélangeant pour le consommateur. Et aussi au niveau des producteurs, il n'y a pas d'obligation de mettre sur le marché un produit qui soit recyclable ou accepté par les centres de tri. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, selon nous, manque énormément. Il n'y a pas de maillage entre, si on veut, le producteur et celui qui est en aval de la chaîne de valorisation, le recycleur. Donc, entre les deux, ben, souvent, le plastique se perd et va à l'élimination.
Oui, les habitudes alimentaires ont changé aussi avec le télétravail. De plus en plus de monde cuisine ou fait son pain, mais il y a quand même une hausse de gaspillage alimentaire. Professeur Charlebois, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est la hausse de la livraison de nourriture? Comment on l'explique?
Ben ça, c'est un autre aspect qu'on surveille de très près, c'est la livraison. Nous, avant la COVID, 1,7% des ventes alimentaires au Canada étaient effectuées en ligne. Là, c'est maintenant autour de 4%.
Mm-hmm,
c'est énorme et ça peut sembler peu, mais on parle de près 5 à 6 milliards de dollars de plus de nourriture vendue en ligne. Et tout ça, évidemment, requiert de l'emballage. Il y a aussi les trousses repas, il y a les livraisons par la restauration. La restauration avait vraiment besoin de vendre des produits en ligne. Tout ça contribue à un gaspillage supplémentaire d'emballage. De plus en plus, les compagnies s'intéressent à de l'éco-emballage, mais il y a un coût à tout ça. Hein. Et on le voit dans nos études, c'est que les consommateurs veulent sauver la planète, mais veulent pas nécessairement payer plus. Et c'est ça qui est le désavantage, le problème dans le domaine de la distribution alimentaire. L'Emblase vient de signer un partenariat avec Loop, ce qui est un programme de TerraCycle aux États-Unis. C'est qu'on permet aux consommateurs de commander en ligne des produits qui sont dans des contenants réutilisables. Alors, on reçoit nos contenants à la maison. Mais lorsqu'on a terminé, on doit soit appeler FedEx ou reporter ces conteneurs-là dans 500 différentes places à Toronto. C'est un projet pilote à Toronto. Mm-hmm. Le problème, c'est que les conteneurs sont renvoyés au New Jersey, aux États-Unis, pour être renettoyés. Ensuite, on refile les conteneurs à Toronto pour qu'ils soient remplis encore une fois. Alors, on voit vraiment qu'on veut peut-être régler le problème de l'emballage, mais le programme comme tel nous incite à se poser de sérieuses questions sur le cycle logistique vert du programme comme tel. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs dans l'industrie actuellement. Je ne veux pas condamner Loblaws pour son travail, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire pour essayer de trouver la solution idéale pour l'ensemble de l'industrie.
Oui, d'amélioration finalement.
Ouais.
Un citoyen sur trois avoue avoir consommé plus de produits emballés de plastique avec la pandémie, et c'est presque aussi un jeune sur trois, selon un récent sondage. La réglementation pour l'interdiction des plastiques à usage unique connaîtrait un léger recul auprès des Canadiens. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça risque de rester, Monsieur Ménard?
Ben, j'espère que c'est temporaire et je crois que c'est effectivement temporaire parce que souvenez-vous, avant la pandémie, donc ça paraît très lointain, l'environnement était la priorité numéro un des gouvernements et des citoyens. Donc la pandémie est venue mettre un voile sur ça. On espère tous qu'éventuellement on passera à autre chose dans les prochains mois et là l'environnement devrait reprendre un petit peu. La question environnementale de toute façon va s'imposer d'elle-même parce que la pandémie n'a pas occulté les problèmes environnementaux. Elle les a simplement mis un voile sur eux, mais les changements climatiques sont toujours là. La surproduction, la surconsommation sont toujours présents. Donc, l'environnement va se manifester là, de lui-même après que la pandémie va être terminée parce que les problèmes, même si on n'en parle pas, ne sont pas réglés. Au contraire, ils sont exacerbés par la pandémie. Le fait que les gens consomment beaucoup de plastique à usage unique, c'est que souvent, on nous impose, regardez dans les magasins, des sacs jetables, de consommer du suremballé pour éviter que la propagation du virus se fasse, quoique il n'y a rien qui ait été démontré à ce niveau-là. Et le lobby des plastiques et du pétrole derrière pousse énormément aussi pour que le plastique à usage unique soit considéré comme étant la solution à la transmission du virus, alors ce qui est complètement faux. Donc, il y a plusieurs choses qui sont dites à tort et à travers ou concernant le plastique à usage unique. Ça demeure, selon nous, là, quelque chose qu'on doit régler, effectivement. Même les mesures gouvernementales, soit fédérales ou provinciales, sont somme toute assez timides. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que chaque petite municipalité, MRC, ou province ou même le pays aura sa propre politique ou stratégie visant à réduire le plastique, alors que bien souvent, c'est simplement on substitue une matière, un objet en plastique par un autre. Regardez les pailles, par exemple. On veut interdire les pailles à usage unique. Maintenant, ce qu'on voit, c'est des pailles en carton. On a simplement déplacé le problème. Et bientôt, on va avoir du plastique biosourcé, donc du plastique supposément compostable, mais qui n'est pas accepté par les plateformes de compostage municipales la plupart du temps ou par les usines de biométhanisation. Donc, on crée un problème en voulant en régler un autre. On veut séduire la population, on veut montrer qu'on est proactif, mais souvent, c'est très, très, très superficiel. C'est-à-dire, les pailles, oui, c'est important, mais comme je dis souvent, il ne faut pas que la paille nous cache la forêt derrière. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ça et il faudrait avoir des politiques coordonnées.
Oui, professeur Charlebois, il ne faut pas que la paille nous cache la forêt. Êtes-vous d'accord avec ça?
Bon, oui, absolument. En fait, moi, j'ai participé à un projet il y a quelques années, en fait, en lien à des capsules de café compostables. Bon, l'idée était bonne. C'est Club Coffee qui est le manufacturier. Et l'intention, c'était d'offrir une solution pratique aux consommateurs. On met la capsule dans notre machine Keurig, par exemple, pour la jeter dans le compost. Donc, c'est une solution facile, pratique. Par contre, on s'est rendu compte que les villes sont pas prêtes à accepter ce genre de produit-là. Alors, ça a pris 4 ans avant d'avoir un certain niveau d'acceptation, disons, de la part des villes. Alors, quand on tente de développer une chaîne logistique verte, il faut absolument penser à une solution qui va convenir à tout le monde. Et ça manque un peu parce que on pense toujours à vendre quelque chose, à présenter une belle image, mais l'essentiel, c'est de contribuer à régler le problème.
Oui, les municipalités québécoises vont modifier, je ne sais pas pour le Nouvelle-Écosse, mais modifier la gestion des déchets avec l'adoption de la consigne élargie, on en parlait, et la réforme du recyclage, ça on en parlait avant la pandémie. Les producteurs de contenants seront les responsables du cycle de vie et de leur fin de ce qu'ils produisent. Mais est-ce que la pandémie risque de freiner ces changements et de les faire peut-être reculer, Monsieur Bénard?
Je dirais peut-être retarder peut-être l'application de certaines sections, mais je sais que le gouvernement et les comités de travail travaillent justement sur l'élargissement de la consigne et la modernisation de la récupération, parce que c'est essentiel. Le gouvernement, je pense, aux Québécois, est sérieux dans ce qu'il a annoncé déjà en janvier dernier, donc en janvier 2020, concernant l'élargissement de la consigne. Et pour nous, c'est une excellente chose, parce que ça fait plus de 25 ans qu'on milite pour l'élargissement de la consigne, parce que c'est la meilleure façon de récupérer un contenant. Et idéalement, il faudrait que le contenant vise en fait la réutilisation, donc qu'on puisse le laver et le réutiliser, comme par exemple les bouteilles de bière brunes. Là, on tend de plus en plus justement vers ça, ce qui est une excellente chose. Aussi, le fait qu'on doive récupérer ses contenants, si je parle au nom de l'industrie, c'est que l'industrie va s'assurer que son contenant est recyclable s'il en devient responsable. Je mets en marché un contenant dont je suis responsable tout au long de son cycle de vie. Donc, je dois m'assurer que le contenant soit effectivement recyclable, parce qu'autrement, je vais être pénalisé. Donc, l'application de la REP, de la responsabilité élargie des producteurs, est une excellente chose. Encore faut-il que ça soit bien appliqué. Et c'est là où peut-être où le diable est dans les détails, parce que on a certaines REP au Québec qui fonctionnent cas, ça veut dire souvent la facture est refilée au consommateur et on n'a pas nécessairement de traçabilité sur ce qui est fait là, du produit récupéré, sur les modes de récupération, s'ils sont efficaces ou non. Mais au niveau de la consigne, c'est différent parce qu'il y a une trace financière, donc c'est supervisé, si on veut, par le gouvernement. Donc, on sait combien de contenants sont récupérés, combien sont recyclés et autres. Donc, c'est une excellente chose. Au niveau de la collecte sélective aussi, c'est une excellente chose que l'industrie soit responsable des produits qu'elle met en marché. Je parle des contenants, des imprimés, des emballages qu'on retrouve dans le bac de récupération. Donc, si l'industrie est responsable de l'atteinte des objectifs de recyclage des produits qu'elle met en marché, ça risque de changer la donne. Donc, on risque d'avoir une meilleure efficacité et un plus haut taux de recyclage des produits qu'on met dans le bac de récupération.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Montréal a sa taxe verte, sa tarification des déchets. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut compter et qui a aussi peut-être connu un recul? Ou où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là?
Oui, ben, la tarification des déchets, il faut quand même faire attention parce que faut pas pénaliser nécessairement ceux qui ont moins d'argent. C'est-à-dire, il y a peut-être d'autres... Oui, parce que souvent, on doit consommer, je consomme, vous consommez, là, il faut quand même vivre, manger, acheter des produits, et ainsi de suite, du linge. Donc, c'est pas toujours le citoyen, le consommateur qui est responsable de la pollution, de la production de déchets, parce que souvent, on n'a pas le choix lorsqu'on est au magasin. Et souvent, paradoxalement, un produit moins cher sera davantage emballé, alors qu'un produit plus cher...
Comment on explique ça?
Pensez à une boîte de céréales. La boîte de céréales, en fait, oui, elle a une fonction, c'est-à-dire d'emballer, si on veut, des céréales, mais les céréales sont déjà dans un sac à l'intérieur. Si on mettait seulement des céréales dans un sac, ça serait pas très vendeur. Donc, on a une boîte en carton avec des belles couleurs vives pour attirer l'œil. Et souvent, la boîte est disproportionnée par rapport au contenu. On emballe du vide à toute fin pratique. Et ces produits-là sont pas chers parce qu'ils sont destinés au grand public, à ceux qui font l'épicerie à chaque semaine. Donc, la boîte dit « achète-moi, je suis joyeux, j'ai un petit lapin qui sourit dessus ». Donc, alors que peut-être des produits, je veux pas dire plus haut de gamme, mais peut-être plus chers vont avoir moins de flafla parce que les gens savent ce qu'ils veulent acheter. Donc, ils seront moins peut-être tentés par un emballage flamboyant et vont aller directement sur les produits là, de niche qu'ils achètent. Et aussi, si on pénalise des gens avec une taxe sur les poubelles, si on veut, il faut s'assurer qu'ils aient toutes les alternatives, ça veut dire la collecte des matières organiques, des possibilités de réduire à la source, des possibilités de réutilisation. Et aussi, c'est très dur des fois, dépendamment de la forme de taxe, si on parle d'une taxe au poids, par exemple, de savoir à qui appartient la poubelle.
Comme en Corée du Sud, ils pèsent leur poubelle, puis ils doivent payer un montant. Est-ce que ça serait compliqué ici de le mettre en place aussi?
Premièrement, c'est interdit, parce que le fédéral ne permet pas justement la pesée des matières résiduelles. Donc, question de poids et mesure, là, de simplement. Mais aussi, ça peut être applicable et... dans des endroits où les maisons sont uniformes, où le bâti urbain est similaire, où il y a par exemple juste des unifamiliales, on sait exactement à qui appartiennent les poubelles qu'on pèse. Par contre, dans des milieux plus densément peuplés, avec des blocs appartements, les poubelles sont mises en commun, si on veut, dans des gros conteneurs. Et là, c'est plus dur de dire, ah, tiens, ça pèse plus parce que tel locataire a mis ses poubelles là. Donc, c'est au niveau de l'application, de retracer, c'est ça. Donc, faut pas pénaliser ceux qui font des efforts parce qu'ils ont mis les poubelles avec des gens qui s'en fichent un petit peu. Donc, c'est à considérer, mais il y a d'autres façons d'avoir une éco-taxation, je préfère, ou une éco-fiscalité, c'est encore mieux parce que taxation, ça fait peur. Mais il faut la redevance élimination, par exemple, ça veut dire faire payer plus l'enfouissement. Donc, c'est sûr que ça va avoir des répercussions en amont au niveau des générateurs, au niveau des municipalités. Donc, s'assurer de mettre sur pied des mesures qui visent justement la réduction à la source des matières résiduelles, des programmes des bons programmes de récupération, la consigne notamment, ou la collecte des matières organiques. Donc, il y a plusieurs moyens ou choses qui doivent être mises en place avant d'y aller vers une éco-taxation ou une taxation à l'élimination là, chez le citoyen là, à sa porte.
Oui. Il y avait une sensibilisation à moins utiliser de sacs de plastique quand on faisait l'épicerie, à privilégier les sacs en tissu et réutilisables. Pensez-vous que nous allons revenir à des habitudes, de ce type d'habitudes plus écologiques finalement?
Oui, absolument. Je pense que la pandémie, en fait, il y a eu beaucoup de pression, justement, comme j'ai dit, de la part de l'industrie du plastique à usage unique ou du pétrole, l'industrie qui est derrière, pour qu'on revienne à la consommation de produits à usage unique. Mais puis en début de pandémie, hein, c'était l'inconnu. Hein, tout le monde, en fait, personne ne savait trop qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui allait se passer. Donc, on avait peur. Monsieur Charlebois l'a dit. On a fait des réserves alors que ça a amené un certain gaspillage alimentaire. On a eu peur d'avoir aussi une pénurie de papier de toilette, ce qui est un petit peu une aberration parce que c'est ça. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je pense qu'on est régulier, c'est au niveau de la consommation, si on veut, et c'est pas une problématique, mais il y a des choses qu'on a du mal à expliquer sur le plan de la psychologie humaine. Le plastique à usage unique, je pense, ça a été ça. Donc, ça a été un petit peu véhiculé comme étant un vecteur, pour la propagation du virus, alors ce qui est complètement faux. Mais je pense que ça va revenir. On va se rendre compte que, comme j'ai dit, lorsque la pandémie va s'amenuiser, va disparaître, en fait, on l'espère, que la question environnementale va revenir à l'avant-plan. Donc, et elle va s'imposer d'elle-même parce que les problèmes, comme j'ai dit, ne disparaissent pas avec la pandémie. Ils sont simplement occultés. Donc, on n'aura pas le choix que de faire attention et que de revenir à de bonnes habitudes ou peut-être cesser nos mauvaises habitudes au niveau de la surconsommation de plastique à usage unique ou de tout autre produit là, non nécessaire à notre bien-être en général.
À l'échelle de la planète, on parle de 129 milliards de masques, de 65 milliards de gants et de plastique depuis le début de la pandémie. Il y a aussi les panneaux de plexiglas, comme bien d'autres équipements de protection individuelle à usage unique qui échappent au recyclage. Qu'allons-nous faire de tout ça? Est-ce qu'il faudra agrandir nos dépotoirs?
C'est quand même des chiffres astronomiques, mais ça représente pas en volume des volumes si grands. Un masque, c'est à peine 5 grammes et c'est de l'air tout impratique. C'est un filtre en polypropylène là, tissé. Mais ça représente et ça frappe l'imaginaire, effectivement. Au Québec, je crois qu'on va distribuer dans les écoles autour de 100 millions de masques d'ici la fin de la session. Donc, c'est énorme. Mais ce ne sont pas, premièrement, il faut absolument pas les mettre dans les bacs de récupération. Donc, les équipements de protection. Tout se recycle, hein, c'est-à-dire, mais il faut des conditions pour assurer un recyclage là, d'une matière. Un masque, par exemple, il faut s'assurer qu'on ait une bonne. Premièrement, idéalement, s'assurer qu'on mette en marché un masque qui soit recyclable. Actuellement, c'est pas le cas. On appelle ça un masque jetable, les masques de procédure. Donc, ils ont pas été conçus pour être recyclés à la base. Donc, les recycleurs de masques n'existaient pas au Québec parce que il y avait pas de marché pour ça. Donc, il faut certaines des conditions. Donc, avoir un volume suffisant. Là, je pense qu'on l'est. Avoir des systèmes de récupération efficaces. Avoir des coûts de transformation, de mise en valeur, de conditionnement qui soient intéressants. Faut pas que le produit recyclé coûte plus cher que le produit vierge. c'est une question de marché simplement. C'est-à-dire, on le voit très bien dans le plastique à usage unique. Les producteurs, les fabricants préfèrent acheter du plastique vierge parce que ça coûte moins cher. Même chose pour le papier recyclé. Donc, on préfère acheter du papier moins cher, donc fait à partir de fibres vierges, que plutôt du papier issu là, de la collecte sélective. Mmh. Aussi, il faut qu'on fasse un produit utile et il faut qu'il y ait des acheteurs pour la matière. Au niveau des masques, je sais qu'il y a des efforts qui se font au Québec pour développer des systèmes de recyclage au Québec, vraiment de recyclage, parce que ce qu'on nous offre principalement, ce sont de la valorisation énergétique. Donc, certaines compagnies récupèrent les masques à très fort prix. Et ça aussi, il faut prendre ça en considération là. Donc, ce qui c'était peut-être bon pour des laboratoires avant la pandémie, des laboratoires biomédicaux, mais là, au niveau des écoles secondaires et des cégeps et des institutions, c'est des comme vous avez dit, des centaines de millions de masques qui se retrouvent comme ça dans la nature. Et les prix n'ont pas baissé. C'est pas parce qu'on a un plus gros volume que les compagnies offrent des meilleurs prix. Au contraire, donc ça coûte des fortunes. On parle peut-être de 40 millions de dollars. Pour somme toute, une matière qui va représenter un faible volume malgré qu'on va en générer là, une centaine de millions. Mais ça frappe l'imaginaire et je pense que tout le monde veut bien faire. Il y a personne qui est malveillant là-dedans. Donc, je crois qu'on va éventuellement en arriver sous peu à une technologie au Québec qui va vraiment trouver une façon de recycler les masques. C'est autre chose pour les gants ou les combinaisons, ou même le plexiglas. Le plexiglas est une matière qui se recycle hein, relativement facilement, mais il n'y a pas justement de créneaux.
Oui,
il y a un marché si on arrive à faire un plexiglas pour la même utilité qu'il a actuellement ou pour d'autres utilités, mais il n'y a pas de système de récupération de plexiglas. Moi, si j'ai une feuille de plexiglas, où je vais la porter pour qu'elle soit recyclée, donc il n'y a pas de collecte. Il n'y a pas de centre de dépôt pour les plexiglas. C'est pas tout le monde qui va aller nécessairement à l'éco-centre. Et l'éco-centre, encore, faut-il qu'il y ait un gros volume pour qu'il puisse acheminer un recycleur. Donc, il n'y a pas un circuit de distribution ou de reprise, si on veut, pour ces produits-là. Il faut que ça se développe. Et la pandémie, ben, ça fait en sorte que on n'a pas eu le temps de penser à tout, de tout planifier. Souvent, on parle d'improvisation, oui, mais peut-être aussi de manque de planification, mais par la force des choses, ça nous est tombé dessus tellement rapidement et on doit porter un masque, ça c'est absolument nécessaire, mais peut-être on aurait dû penser à développer un masque réutilisable, c'est-à-dire qu'on puisse porter une dizaine ou une vingtaine de fois au lieu de seulement 4 heures du coup. Donc ça, c'est peut-être des ratés, mais je pense que l'important d'abord et avant tout, c'est arrêter la transmission du virus et portons des masques à usage unique s'il le faut. Et après ça, on s'attendra à des questions environnementales. Mais je pense que la priorité actuellement, effectivement, c'est de ralentir et ensuite d'arrêter cette pandémie qui nous affecte tous.
Merci beaucoup. On était donc en compagnie de Kaël Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, et de Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique agroalimentaire, directeur du laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Merci à tous les deux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Oui, partagez-la. En attendant, bonne semaine et portez-vous bien.
Est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de...